En piste pour la récré des papous, Françoise Tressart et la belle équipe, bonjour. À l'affiche, une page de Publié Papoucité et un fait divers pour des témoignages inattendus. Patrick Beignet a tout vu.
Elle m'a dit, mes neveux reviennent, ils ont besoin de faire de l'exercice, beaucoup d'exercice. Je vais leur offrir des pelles.
Mais les sept neveux, on dirait les sept nains qui partent à la mine avec leurs pelles. Hein.
Oui,
ouais. Là, 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 là. Et puis, l'exercice d'admiration de Patrice commence sur Talleyrand. Le jeu des suppositions avec Eva Almasti et la rencontre entre les faussaires, Odile Conseil, Patrice Delbourg, Jean-Bernard Pouy et les experts Lucas Fournier, Patrice Caumont à propos de... Chut ! Surprise !
Voilà un velouté de cèpe qui fait du bien par où il passe.
Bon, bah, ça suffit.
Ça suffit. Patrice Delbourg.
Ce voyage a été fort éreintant, n'est-ce pas, Baltimore ?
Oui, bien sûr.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h59 pour un numéro des papous dans la tête, tout en pastiche et découverte à podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Merci de votre fidélité à nos jeux papouesques et bienvenue à tous ceux qui écoutent pour la première fois. Et pour se lancer, une page de pub dédiée à Jean-Bernard Pouy. Mais oui, culturel absolument comme lui et décalé aussi comme il peut l'être. Publié Papoucité proposé par Odile Conseil avec Jeanne Carillon, Patrice Caumont, Philippe Manès, notre complice du Café de la Gare. Chant et piano, Gabriel Godard, musique.
Si par hasard, un de ces jours, vous prend une grande envie de lire, laissez-vous faire et sans détour, plongez, goûtez avec plaisir.
C'est pas mal ton poème, mais lire quoi en fait ? Un prospectus ? Le mode d'emploi du lecteur de DVD ? L'horoscope lunaire, chinois, aztèque, rustica, fripounet marisette ? Nous deux ?
Nous deux, ça voulait dire toujours, à l'époque où j'étais fleur bleue, dévorant des romans d'amour. J'en ai lu 1822.
Oh là là là, les romans d'amour, très peu pour moi. Les grands sentiments, les nunucheries, les baisers sur fond de soleil couchant, quel ennui. Perso, je vote pour les romans d'aventure.
Si d'aventure, un bon sauvage, un mousquetaire, un fier pirate m'emmène au fil de belles pages, je suis aux anges, je m'éclate.
Et moi, je vous dis que tout ça manque vraiment de couleur. Côté roman, celui que j'aime a la couleur de l'encre. Et de la nuit.
Ils trempent leurs plumes dans la nuit, espérant un jour, le grand soir, les jonquets, Deninx et Pouy, spécialité, le roman noir.
Le roman noir vous en fera voir de toutes les couleurs.
Quand on lisait très tard le soir, quand on lisait sans le savoir, des romans noirs, on frissonnait dans le dortoir. Il y avait Chandler, il y avait Villard, il y avait Chester, Himes et Bouddha. Et puis Pouy, on les dévorait en tremblant, et Pouy aussi en rigolant. Tous ces romans, il y avait du suspense, des pétoires, il y avait Suzanne et les ringards, et des cadavres dans le placard chez J.B. Pouy. Faut dire qu'il y mettait du sang et qu'il a du tempérament, ce J.B.-là. Du poulpe, il est le créateur, d'une vache, il fut le locuteur, et d'un sandwich, le jambon beurre.
Le roman noir, des histoires à vous faire voir rouge.
À vous rendre bleu ou vert de peur.
Le roman noir, oui, vous en fera voir de toutes les couleurs.
Un fait divers maintenant pour témoignages croisés. Qui dit fait divers ne dit pas forcément tragédie, même chez Félix Fénéon dans ses nouvelles en trois lignes. On trouve des faits divers innocents. Exemple, des gens ont la passion des fils téléphoniques. Ils en ont pris 900 mètres à Gargan et 1500 entre Épinay et Argenteuil. C'est pas bien, certes, mais il n'y a pas mort d'homme. On va s'intéresser à un autre fait divers, imaginez-lui, par Ricardo Mosner, et pour lequel nous interrogerons deux témoins, Patrick Beignet, Patrice Delbourg. Quand il se passe quelque chose quelque part, à chacun sa vérité. D'abord, vous nous racontez les faits objectifs, Ricardo Mosner.
Au square Charles Baudelaire, dans le 11e arrondissement, les matins du 15 avril, on a découvert un trou de 25 mètres de diamètre. On parle d'OVNI et des fouilles archéologiques. Madame Roland accuse une meute de chiens devenus loups en provenance de Montreuil d'être responsable de l'excavation.
C'est tout.
C'est assez déjà, 25 mètres.
Oui, ça fait un petit peu peur. Hein.
Ça fait peur.
On imagine la situation. Je ne connaissais pas ce square.
C'est un très joli square. Ouais. Avec une aire pour enfants.
Une aire pour enfants. Un bon restaurant dans un coin.
Absolument.
Et des belles façades tout autour.
On dirait deux frères jumeaux, Hervé et Patrice Delbourg.
Je me promène toujours au square. J'ai une amie avec laquelle je suis fâché qui est juste en face d'où il y a le trou.
Ah bon? C'est elle qui vous a raconté?
Non, elle ne se parle plus.
Ah bon? Oui. Donc c'est assez mystérieux. Patrick Beignet, je sais que vous n'habitez pas le quartier, mais enfin, vous avez le droit de vous y promener. Vous avez peut-être vu des choses.
J'y travaille.
Ah, voilà. Oui.
Je suis le quincaillier du Faubourg Saint-Antoine.
Oui. Le seul, l'unique.
Oh, celui qui est près du square Baudelaire. Madame Rollin m'a acheté 7 pelles hier matin.
Ah.
Elle avait cet air légèrement affolé qu'elle a généralement avant ses crises. Elle m'a dit « Mes neveux reviennent, ils ont besoin de faire d'exercices, beaucoup d'exercices. » Je vais leur offrir des pelles, une pelle pour chacun. Montrez-moi vos pelles, monsieur Dubois. Je veux voir vos pelles. Je lui ai montré mes modèles de pelles. J'en ai pas mal. Madame Rollin a longuement hésité. Elle m'a demandé conseil. C'est une excellente cliente, toujours un peu angoissée. Je lui ai conseillé les pelles australiennes, Altamira 12, que j'ai reçues la semaine dernière. Elles sont très agréables à utiliser. Je pense que vos neveux vont aimer ça, ai-je dit. Elle m'a appris 7, une pelle par neveu. Ça lui a fait une jolie somme, mais elle n'est pas regardante, Madame Rollin, surtout quand il s'agit de ses neveux. En sortant de mon établissement, elle récitait l'Albatros de Charles Baudelaire. Ça m'a un peu étonné.
Ah oui. Mais les 7 neveux, on dirait les 7 nains qui partent à la mine avec leurs pelles. Hein.
Oui.
La. Est-ce que Madame Rollin aurait un faux air de Blanche-Neige? Non,
pas du tout. Vous ne la connaissez pas. Non.
Mais non, c'est vrai, je ne la connais. Vous la connaissez, vous, Jacques Bertrand?
Non, pas du tout, mais je sais que ses neveux sont au Louveteau.
Ah ben oui, alors peut-être.
Qui expliquerait la confusion.
Oui, la confusion du fait divers. Patrice Delbourg, bon, vous me paraissez beaucoup plus sérieux.
Je suis très navré, je suis Charles Baudelaire.
Oh. Charles Baudelaire, oui, vous avez l'écharpe et tout, la tenue. Donc vous n'êtes pas très heureux de ce qui se passe dans le square auquel on a donné votre nom, c'est ça?
On a donné mon nom et j'ai bien eu du mal à l'obtenir, ce square.
Ah bon?
Oui. J'ai mis 95 ans pour obtenir enfin mon nom, un square convenablement situé dans cette ville que j'ai tant chérie, que j'ai tant chantée. J'ai attendu que les pouvoirs publics me célèbrent enfin avec ce petit périmètre verdoyant entre Bastille et Nation. J'ai laissé passer moult folliculaires qui ne me valaient pas. Les Saint-Exupéry, les Mauriac, les Anatole France, les Paul Bourget, à qui on a donné des noms d'avenues, de ronds-points. J'ai cédé la place à des flopés de plumitifs qui ne m'arrivaient pas à la malléole. Les Éluards, les Bretons, les Monterland, les Cocteau, les Gides, à qui on a donné des boulevards, des belvédères. Et maintenant que je possède enfin mon square, à mon patronyme, voilà qu'on y creuse des trous. Que des chiens errants pissent sur mes troènes. Oui, Citroën que je possède, s'il vous plaît. C'est la horde de Montreuil. Ces poètes passéistes de la Croix de Chavaux qui veulent ma perte. Les Potards, les Méliès, les Archambault, les Raspol, les Fumel. Ils me haïssent, je le sais. Ils ne supportent pas mon aisance métrique et ma grâce à les mystiches. Alors ils font des trous dans mon air de jeu. Ils saignent l'écorce de mes troncs. La vermine s'y met. Les enfants de mes bacs à sable se couvent de pustules. C'est Charles Baudelaire qu'on assassine. Ah, rappelez-vous, le square que vous vîtes, mon âme. Un beau matin d'été si doux, au détour d'une rue, ce chantier infâme, des trous partout comme une femme lubrique, brûlante et suant de vil poison. Mon beau square ouvrait d'une façon nonchalante et cynique, son ventre défoncé, plein d'exhalaisons. Les mouches bourdonnaient sur mon square putride, d'où sortaient de noirs piétons des larves qui coulaient comme un épais liquide le long de mes vivants haillons.
Il a encore la forme, hein.
Ah oui.
Il ne peut pas s'empêcher.
La poésie est là, toujours. On comprend votre douleur, quand même.
Défoncer un square comme ça,
c'est... Oui, oui, oui.
C'est un carnage.
Si vous aviez le choix, vous aimeriez donner votre nom à quoi?
Je ne sais pas, j'aimerais qu'on me débaptise, qu'on l'appelle le Verlaine.
Par le square Paul Verlaine.
Oui, ou quelqu'un qui se néglige, un peu, un poète, un peu.
Oui, mais vous voudriez un boulevard?
Moi, je voudrais un rond-point, moi.
Un rond-point.
Un belvédère, quelque chose d'un peu surhaussé. Quelque chose un peu comme la place de l'Étoile. La place de l'Étoile, ça serait bien.
Les Sacre-Cœurs.
Je la guigne un peu.
Place Sacre-Cœur,
non, ça ressemble à un lieu mamelon.
Non, mais...
non, j'aime pas le Sacre-Cœur.
Elle sera rebaptisée Place Modiano un jour, donc laisse tomber.
Oui, je crois que c'est déjà pris. Non, non. Non, le Baudelaire. Ou alors un aéroport. Moi, le Baudelaire. Roissy Baudelaire.
Pas mal, ça.
Ah, oui.
Très, très bien. On va faire une pétition.
Parce que, le Paul Bourget s'est déjà pris.
Absolument.
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tous ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire du tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur. Et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi je ne veux pour rien au monde plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Jeanne Birkin, c'est petit rien.
Alors, on boit un coup? Attends quoi? Attends que j'écoute les papous. Les papous, et c'est dans la tête, tous les dimanches, à 12h50. Et c'est sur France Culture.
Eh oui, Ricardo, et place à Patrice Caumont, notre philosophe, amoureux de la publicité et de l'aquarelle, qu'il a toutes deux pratiquées, de même qu'il a enseigné un temps la philo à des élèves de terminale qu'il savait divertir tout en leur transmettant son savoir. Et avec lui, il les avait leurs bonnes notes au bac. Il est à l'épreuve aujourd'hui, Patrice Caumont, de l'exercice d'admiration. Dis-moi qui tu admires et je saurai un peu qui tu es. Alors on peut savoir tout de suite ou c'est une devinette, Patrice?
Oui, vous avez tout à fait deviné que c'était une devinette.
Je suis très forte.
Non, c'est une élégie en vers plus ou moins irréguliers. Les pieds ne sont pas tout à fait parfaits, mais ce sont des vers boiteux, mais vous verrez que c'est un rapport...
Avec l'objet.
Avec mon admiration.
Ouais, très bien.
J'admire les faux culs, les fourbes, les faux derches, ceux qui noient le poisson en vous tendant la perche, les rois du croche-patte, ceux qui vous entourloupent, ceux qui vous enfarinent et crachent dans la soupe, vous embobinent et patelinent en vrai matois. Les félons font leur cours et tuent ceux qu'ils tutoient. Question brouille ou embrouille, le couscous est royal. Au cirque du monde, c'est monsieur déloyal. Le retors tortueux pour lui seul fait campagne. Au double jeu toujours, le faux jeton gagne. Ce Judas mielleux joue les bons apôtres. Avec lui, tout est mis sur le dos des autres. Ses ennuis aux amis, qu'il double à saute mouton. Il quête les écus, mais il paye en bouton. À la moindre menace, il va s'enfuir à Donf. Défaite qu'il simule, dissimule son triomphe. Car au pays des rats, ce chafouin se fait roi. C'est plutôt les talons, question cheval de Troie. Du plus grand des faux culs, je retarde l'annonce. Ne comptez pas sur moi pour que je le dénonce. C'est au jeu des portraits, un peu chinois, j'avoue, que vous le trouverez. Allons-y, c'est à vous.
Si c'était un tableau...
Ribera, le pied beau.
Si c'était un personnage tragique...
Iago.
Une comédie...
Tartuffe, sinistre personnage.
Un roman...
Le diable boiteux de Le Sage.
Si c'était un oiseau...
Un coucou plein d'esprit qui s'envergogne au droit d'autrui fait son nid. Ou l'éternel phénix qui fait encore cuit-cuit et retombe sur ses pattes quand on le croit tout cuit.
Un animal...
Renard, anguille, caméléon. Rien qu'une sale bête et de la pire espèce.
Une plante...
Roseau, qui lui jamais ne rompt. Qui se plie en courbette en serrant bien les fesses.
Si c'était un meuble...
Un bureau, fort bancal, tout en sous-main, tendu de vrais pots de chacal, qui a bien mérité sa restauration. De style Louis XV, XVI, XVIII jusqu'à Philippe, directoire et empire pour les décorations. Avez-vous la réponse ou est-ce l'angocha? C'est Talleyrand, bien sûr.
Ah.
Le prince des faux d'Erche, le faux, fuyant ses créanciers qui le recherchent. Des honneurs d'un jour pour les honneurs de demain, les courbettes, souvent, vous ouvrent le chemin. Il jure et se parjure, verbe haut, profil bas, il vous parle d'ici, mais regarde là-bas. Il sait tenir son rang bien plus que sa parole, l'appât de tous les gains le ronge comme la vérole. C'est un joueur vénal qui se fait acheter, il a le courage de toutes ses lâchetés. L'ambitieux patient d'un mouchoir bien ourlé couvre dans l'instant le péril de vanité. Il ondule, il séduit, caresse les deux camps. Girouette prend le vent, Mistral toujours gagnant. Si son contemporain, Benjamin, pas Constant mais Franklin, nous offrit le vrai paratonnerre, il fut plein d'inventions, notre prudent Talleyrand, pour parer aux foudres des puissants de la terre. Ouvrir le parapluie, s'emporter le chapeau, séduire les femmes utiles dont il jette la peau, comtesse ou marquise en guise d'escabeau, pour faire ami-ami avec Mirabeau. Devant la de Stahl, bavé comme un escargot, et même sous la terreur, n'usez jamais d'argot. On peut croire son égal en pied beau, Lord Byron, elle raffole des boiteux, les romantiques baronnes. Ce complexe d'infériorité, comme dit Adler, ne sera compensé que par la surenchère. Sans ce talon d'Achille, pas du tout d'Iliade, il est diplomate pour sa seule ambassade. Il ne prie que pour lui, et trahit tant et plus, sauf les grands idéaux, car jamais il n'en eut. Il ne s'enfuit jamais, mais il part en voyage, avec sa verve et son jabot pour tout bagage. Toutes ses valises seront diplomatiques, qu'il file à l'anglaise ou vers les Amériques. Être flou pour flouer, évêque sans y croire, lâche sans relâche, prince sans le vouloir, j'admire Talleyrand, faux cul quoi qu'il en soit, et merde, t'es le plus bas, et ça va de soi. Toi, Talleyrand, forme, et encore à l'ouvrage, combines et magouilles, toujours ici font rage.
Donc vous aimez les faux culs. Quel faux cul d'aujourd'hui vous pourriez admirer?
Réponds pas.
La campagne politique m'interdit de citer, sinon il faudrait que je les cite tous. Et ah, je crois que j'aurais raison en les citant tous.
Et quelqu'un avait reconnu Talleyrand, bien sûr, je crois Lucas Fournier.
On nous avait annoncé des pieds boiteux dès le début. Donc,
voilà,
forcément.
Oui, mais j'ai pas pensé. Moi, je pensais à Fouché.
Il n'était pas que diplomate. Quand on demandait à Talleyrand « Que pensez-vous de Jean-Bernard Puy ?»
Oui.
Il répondait « Je n'y pense jamais.
» Tu n'es pas de celle qui meurt où elle s'attache. Tu frottes ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne t'est pas connu. Entrée libre à n'importe qui dans ta ronde. Cœur d'artichaut, tu donnes une feuille à tout le monde. Jamais de mémoire d'homme, Moulin n'avait été autant fréquenté de Pierre à Paul, en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous et Dieu reconnaîtra le sien. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes, jusqu'à ce que l'un de les bras en croix tourne de l'œil dans tes bras. les grands opties en allant jusqu'aux Lilliputiens. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Jusqu'à ce qu'amour s'en suive, qu'à son cœur une plaie vive. Le plus touché d'entre nous demande grâce à genoux, en attendant le baiser qui fera mouche, le baiser qu'on garde pour la bonne bouche, en attendant de trouver parmi tous ces galants le vrai merle blanc, en attendant que le petit bonheur ne t'apporte celui derrière qui tu condamneras ta porte, en marquant dessus fermé jusqu'à la fin des jours.
Brassens par les étrangers familiers. Vous écoutez France Culture et vous y êtes bien. Et c'est Les Papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des Papous du jour. À suivre, jusqu'à 13h59, le jeu des suppositions et le match expert contre faussaire, le plat de résistance de ce dimanche Papou. Alors suppose que tu t'appelles, c'est Eva Almassy qui joue. Elle nous raconte une histoire à propos de quelqu'un. Suppose que tu t'appelles, suis un nom qu'elle a inventé, et la perle de son récit sera un calembour final et culturel sur le nom en jeu. Pour raconter une histoire, il vous faut un interlocuteur, Eva. À qui vous adressez-vous ?
À Hervé Le Tellier.
Oui.
Vous verrez, c'est tout son portrait. Suppose, Hervé, que tu t'appelles Millet.
Millet.
Millet, comme l'Angélus.
Millet. On t'aime bien, Millet, mais surtout et avant tout, tu t'aimes bien toi-même.
Ah, tu te trouves.
Ça, c'est moi. Si je m'aime pas, qui m'aimera,
hein? Tu te trouves beau de face, de profil et de dos. Tout le monde aujourd'hui fait des selfies, mais personne n'en fait autant que toi. Matin, midi, soir, nuit, clic et clac. Moi. Miroir, téléphone. Dis-moi qui est le plus beau. Ah, oh, mais c'est toi, Mie, répond ton iPhone. De là à vouloir partager ce trésor, cet or en barre qui sont tes traits, Mie. Très Mie, c'est comme des roses très miennes.
Ah oui.
Qui sont tes traits, Mie. Il n'y a qu'un pas. Ces milliers de portraits de l'Adonis qui fumiait. Il faut les exposer. Oui. Tu te mets en tête de dénicher une galerie de photographies contemporaines. Tu te rêves déjà à Paris Photo au Grand Palais. D'ailleurs, dès que tu passes en vélib devant ce monument, clac, 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 3 nouvelles photos. Pardon, j'ai mal compté. 300 nouvelles photos de toi en rafale, en Raphaël, car tu es le Raffaello du smartphone. Une jeune Anglaise en mini-jupe jaune et longs cheveux lilas t'aborde. Auriez-vous la gentillesse de me prendre en photo? La belle Britannique n'a pas de perche pour le faire sur la base du « do it yourself ». Au lieu de quoi, elle a un vrai appareil photo à l'ancienne. Pour l'attraper, il faut lâcher ton téléphone. C'est pas commode, déjà que tu as le Vélib entre les jambes. Finalement...
C'est une expression hongroise.
Parenthèse fermée. Finalement, tu acceptes de fermier. Une exception à la règle et immortaliser la séduisante étrangère au lieu d'un énième, d'un xième, d'un millionième selfie de toi-même. La conversation engagée, tu apprends qu'elle travaille justement dans la photo. Elle a même une galerie qui est à la recherche de nouveaux talents. En sommier, c'est de son ressort de te mener vers la gloire. Sally, car elle s'appelle Sally, consent à jeter un œil sur ta vaste collection. Moi à la plage, moi au zoo, moi au cinéma, moi tout nu. Et là, c'est encore moi tout nu, etc. Elle fait défiler...
En fait, ça en dit beaucoup plus de toi que de moi.
elle fait défiler, elle jauge, elle regarde. Et finalement, elle prononce la sentence. C'est impressionnant par la quantité, mais quant à la qualité, il n'y a pas de quoi crier Rogénie Millet.
Crier Rogénie Millet. Elle est magnifique, redites-nous ça.
Encore.
Il n'y a pas de quoi crier Rogénie Millet.
Rogénie Millet.
Ah, vous avez été long à comprendre,
oui,
quand même.
Oui, ah oui, j'ai été long, mais j'ai vu dans le regard.
C'est à cause de l'accent britannique, je sais.
C'est ça,
suppose. Exactement.
Roger Nimier.
Roger
Nimier.
Crier au génie. Elle est approximative, évidemment, mais elle est magnifique.
Non,
pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Roger Nimier, je me tourne vers Clémentine
Bélois,
qui a dit qui c'est.
Je suis un peu poussive sur ce coup-là, mais c'est très.
Ouais,
mais le magnifique Roger Nimier, qui s'est tué en accident. Et qui, à 20 ans, a écrit trois chefs-d'œuvre et à 25, 8.
Qui est le papa d'une très bonne romancière qui s'appelle Marie Nimier.
Oui.
Alors, bon, vous êtes content, c'était bon, c'est un portrait de vous en creux, évidemment.
Oui, en creux. En creux.
Dernière séquence, longue séquence, de ce numéro des Papous dans la tête, experts contre faussaires. Trois faussaires qui tenteront de faire croire qu'ils connaissent par cœur le début et la fin, quelques phrases, d'un certain roman choisi par Jacques Jouet. À défaut de s'en souvenir, pour les restituer, ils les pasticheront. Ils ont beaucoup lu, ils sont très cultivés et peuvent faire prendre leur contrefaçon pour du vrai. Dans le rôle des faussaires du jour, Odile Conseil, Patrice Delbourg et Jean-Bernard Pouille. Mais attention, un rien peut les trahir, un mot, une tournure de phrase. Ils ont du style, eux aussi, comme l'auteur en jeu, et peut-être pas tout à fait le même style, tout en s'appliquant à l'imiter. Face à eux, deux experts, Patrice Comeau et Lucas Fournier, eux aussi ont beaucoup lu, sont très cultivés, en plus très malins. Ils savent décoder entre les lignes, les sous-textes ne leur échappent pas et ils sont joueurs. Ils ont donc accepté la dure mission qui consistera à découvrir les vraies phrases de début et de fin du roman apporté par Jacques Jouet et diront qui a écrit quoi parmi les faussaires. C'est un peu comme le DLA, un exercice tout à fait périlleux. Expert contre faussaire, le match, première partie. Quel roman avez-vous choisi alors, Jacques Jouet ?
Eh bien, j'ai choisi un roman de Jules Verne, que vous connaissez sans doute, qui s'intitule « Les tribulations d'un Chinois en Chine ».
Ils ont peut-être vu le film, non ?
Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo.
De Broca, oui.
Ouais.
Jean Rochefort.
Oui.
Ben voilà, on a le casting.
Et Ursula André.
Et Ursula André, quand même. Qu'on n'oublie pas, quoi.
Moi, je n'ai pas vu le film.
Ah bon.
Résumez un petit peu l'histoire.
Eh bien, c'est un roman contre le suicide. C'est assez rare, les romans contre le suicide. Il faut le faire lire à des gens qui ont des intentions de ce genre.
Ouais.
Voilà la situation. Il y a un jeune Chinois richissime, un peu blasé de bonheur et de facilité dans la vie, et qui est à l'affût d'émotions fortes. Mais soudain, il apprend qu'il est ruiné. Voilà une émotion forte.
Ouais.
Et comme il ne veut pas imposer la pauvreté à sa fiancée, qu'il adore et qu'il l'adore, il décide de se tuer. Mais il voudrait une mort avec des émotions. Et le simple suicide ne lui convient pas, car il n'a pas peur, c'est trop simple. Alors il a une idée. Il demande à son maître, un philosophe, Wang, de bien vouloir le tuer. Le maître philosophe hésite un peu, puis accepte et donne sa parole solennellement. D'accord, je vais te tuer. Il y a un délai de quelques jours pour exécuter l'acte. Et il empoche une lettre du jeune homme qui déclare qu'il s'est suicidé sans l'aide de personne, donc il ne sera pas inquiété. À ce moment-là, le maître philosophe disparaît complètement de la circulation. Or, on apprend que la nouvelle de la ruine du jeune homme était fausse. Donc il n'a plus de raison de vouloir se suicider. Seulement, il ne sait pas comment joindre son maître philosophe, qui n'a pas de portable.
Hélas.
Et il sait très bien que cet homme qui lui a donné sa parole l'exécutera. Donc voilà, les tribulations du personnage, c'est avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, comment arrêter le bras de celui qu'il a désigné pour le tuer.
Pas très chinois, Damoclès. Hein.
Non.
Damoclès.
Non, mais t'as sabre même.
Alors,
voilà à peu près ce
qui se passe. Le début, un petit peu, l'ambiance.
Alors ça commence in medias res par un dialogue. Et dans ce tout début, il y a trois répliques. Ce sont trois personnes différentes qui sont à table et qui se parlent. On sait un peu ce qu'ils mangent et ce qu'ils pensent de la vie comme elle va. Ça va, c'est suffisamment vague.
Oui, oui, oui. Il y a un peu de précision.
On sait ce qu'il mange et ce qu'il pense de la vie comme elle va.
Oui.
Voilà, c'est tout. Trois répliques.
Et la fin ?
Trois répliques assez développées. Hein. Ce n'est pas des répliques de trois mots, c'est trois lignes chaque.
Ah ben oui, il développe un peu toujours Jules Verne. Hein. Oui. Oui, oui. Puis il écrit bien.
On ne peut pas connaître le nom du personnage ?
Non.
Oh non !
Non, bah, non, c'est à vous de l'imaginer.
D'accord. Non mais d'accord.
Cachez votre joie.
Bon, d'accord, je demandais, c'est tout.
On ne peut pas nommer d'ailleurs ce personnage.
Et la fin, Jacques Jouy ?
La fin, c'est 3-4 lignes, c'est la perfection du bonheur, la fin heureuse, mais avec quelques détails et un certain nombre de points d'exclamation.
Bon, vous lui ferez sentir à la lecture. Très bien, est-ce qu'il y a une question où tout va bien ? Les experts, Lucas Fournier, Patrice Caumont, Servi ?
C'est parfait.
Très clair.
Très clair. Les faussaires, Jean-Bernard Puy, Patrice Delbourg, Odile
Conseil.
On va
pas savoir le nom des personnages.
Non.
We'll be a bubbly baby, bubbling bubbles in my belly, a little beetle or a bee, a bird, maybe a bit of you and me.
Nos trois faussaires sont de retour après une petite demi-heure quand même de travail. C'est pas facile d'imiter du Jules Verne, n'est-ce pas, Jacques Jouy?
Je ne sais pas.
Non, mais vous connaissez l'original, donc. Alors, j'ai en main les textes, je les mélange.
Odile,
et on distribue au hasard. À vous de tirer la première, Odile. Allez-y.
Quelle émotion. Voilà. Merci.
Un texte pour Jean-Bernard Puy. Un pour Patrice Delbourg et un pour moi. Nos amis experts, Lucas Fournier, Patrice Caumont, on est en forme. Hein, l'œil frétille.
Oui, absolument.
Les oreilles sont aux aguets. Vous connaissez bien Jules Verne?
Nous connaissons bien Jules Verne, oui, tous les deux.
Je pense que Lucas Fournier est un bon lecteur de Jules Verne, enfin l'a été dans son enfance.
Mais même encore récemment, parce qu'on découvre des choses extraordinaires et très inattendues dans Jules Verne. Très drôle.
D'accord, donc il va être difficile de le piéger. Et vous, Patrice Caumont ?
Oui, j'aime beaucoup les illustrations de Jules Verne.
Ah, évidemment.
Mais là, c'est de la radio, c'est plus dur.
Et j'ai même collectionné dans le temps les éditions au phare. Je trouve ça très beau, les livres, les Hetzel, je les ai collectionnés pendant des années.
Très bien, très bien. Alors, ben Jean-Bernard Puy, vous avez un texte sous les yeux. De qui est-il ? De vous, d'Odile Conseil, de Patrice Delbourg, de Jules Verne ? On ne sait pas, mais vous allez le défendre avec énormément de conviction. Parce que c'est forcément un beau texte.
Oui, oui.
Qui démarre par un dialogue, comme l'a dit Jacques Jouy.
Début. « Il faut pourtant convenir que la vie a du bon », s'écria l'un des convives, accoudé sur le bras de son siège à dossier de marbre, en grignotant une racine de nénuphar au sucre. Et du mauvais aussi, répondit, entre deux quintes de tout, un autre, que le piquant d'un délicat aileron de requin avait failli étrangler. Soyons philosophes, dit alors un personnage plus âgé, dont le nez supportait une énorme paire de lunettes à large verre, montée sur tige de bois.
C'était la fin, ça.
Non, ça, non, c'est
le début. Ah, on est toujours dans le début. Ah, oui, 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 il me semblait bien.
On dirait
oui,
la fin,
oui, c'est long, on dirait.
Non, c'est toujours le début.
Et oui, la fin.
Oui.
Les deux époux s'aimaient. Ils devaient s'aimer toujours. 1000 et 10 000 félicités les attendaient dans la vie. Il faut aller en Chine pour voir ça.
Alors, Lucas Fournier.
Ah, le début est dense, hein. Il faut.
Ah ben, oui.
Il y a du souffle et de l'élan. Alors.
Et de la nourriture, les nénuphars.
Et de la nourriture
sucre,
et de la description. Ouais. Et les personnages sont campés dès le début. Celui qui a fait ça en une demi-heure est quand même costaud. Et la fin, la dernière phrase, surtout si vous pouvez dire juste la dernière phrase. Oui, il faut aller en Chine pour voir ça, là.
Il faut aller en Chine pour voir cela.
Ah oui, c'est une chute enlevée et Jules Verne est capable de cette ironie-là. Hein.
Mm-hmm. Bon. Petite option ?
Petite option. En tout cas, si c'est pas lui, c'est un bon faussaire. Il est à 18 sur 20.
D'accord.
Mais peut-être un tout petit peu trop chargé au début. C'est ça qui est ennuyeux.
D'accord. Patrice Comont, votre opinion ?
18 sur 20.
Aussi ?
Dans l'escroquerie.
Ah. Oui.
Alors là, dans l'escroquerie, parce que le nénuphar sucré et l'élan de requin comme élément de nourriture chinoise, c'est un peu... Jules Verne aurait précisé, à mon avis, si c'est la cuisine de Nankin ou celle de Pékin.
Le canton.
Le canton, voilà. Ouais. Et puis, il y en a un qui est littéralement vautré, adossé. On ne comprend pas trop où ni comment. Quant à la fin, à mon avis, Jules Verne aurait plutôt dit il faut aller jusqu'en Chine. Pas il faut aller en Chine pour voir ça.
Ah, c'est pas inintéressant ce que tu dis, Patrice Comont. Hein.
Rien, c'est jusqu'en Chine. S'il faut aller jusque-là, à l'époque, écrivait comme ça. On ne va pas en Chine.
Donc, il y a une petite option Jules Verne pour Lucas Fournier et une grosse option pour Le Pasticheur pour Patrice Comont.
Absolument. Mais là, le niveau général est intéressant.
Bah, c'est très drôle. 20, vous avez dit. Hein.
Non, mais là, c'est plein d'humour.
Non,
pour Jules Verne, mais, c'est pas toujours. Mais il y en a. C'est pas toujours.
Alors, un deuxième texte vous attend. Il est lu par Odile Conseil.
En voici le début. « Ce potage au nid d'hirondelle est divinement excellent, déclara Wang, matois et mystérieux. Je n'en dirai pas autant de votre projet, cher ami. Pourtant, maître, il découle de votre enseignement. La fin ne peut être que la compréhension des débuts. Je comprends ce qu'éprouve notre cher et jeune ami. Un dessert se doit de n'être que le résumé définitif d'un repas inattendu, rajouta Lord Carrington. »
Pourquoi cette phrase vous a fait rire, Patrice Comont ?
Parce que c'est très amusant. C'est très
une maxime intéressante.
La fin, oui. C'est Lao Tse à table, mais dit par Odile, c'était très drôle.
D'accord.
La fin ?
Oui.
Le soleil au coucher, que d'or, quelle paix. Ce n'est pas la fin du jour, ce n'est pas la nuit qui tombe. C'est la promesse d'une aube fraîche et bleue, c'est l'annonce renouvelée de la vie.
Oui.
Oui.
C'est fini, hein.
C'est fini. Alors là, il y a du point d'exclamation quand même à la fin.
C'est ce qui avait été demandé par Jacques Jouet.
C'était la consigne. Alors que le précédent avait oublié d'ailleurs le point d'exclamation.
Non, il y en avait.
Ah bon, on ne les a pas entendus dans votre lecture.
Il y en avait, mais j'ai essayé de le transmettre par ma voix, mais je n'ai pas une voix exclamative.
Non, il y a un très joli matois et mystérieux dans la première partie du texte, là, que vous avez cité. Et cette fin assez lyrique. Alors, il faut se mettre dans la psychologie du donneur d'ordre, c'est-à-dire Jacques Jouet, qui connaît très très bien Jules Verne, donc qui est allé dénicher quelque chose qui sera inattendu ou singulier et qui nous trompera.
Mmh.
Pourquoi pas un texte qui finit comme ça ?
Le dernier mot, c'était, Odile ?
C'est l'annonce renouvelée de la vie.
Mmh.
Point d'exclamation.
Il faut oser écrire ça, là. Patrice Delbourg n'aurait jamais osé écrire un truc pareil, quand même.
Il ose beaucoup, Patrice Delbourg. C'est pas un frileux, Patrice Delbourg.
C'est pas un optimiste foncier non plus, donc il aurait eu du mal à écrire ça.
Donc c'est pas du Jules Verne.
Non, mais alors au début, il y a un nid d'hirondelle, quand même, qui arrive.
Le potage au nid d'hirondelle.
Oui, alors là, c'est quand même...
Bon, c'est un grand classique.
Oui, justement, c'est trop classique. C'est trop classique pour être honnête.
C'est quelqu'un qui va au resto chinois du coin, à Paris, c'est ça.
Mais en tout cas, c'est du même niveau que le précédent.
C'est bien, donc.
Oui, c'est bien.
18 sur 20 aussi. Alors, Patrice Comont ?
Là, c'est plus... je trouve que je suis dans le doute. C'est 50-50. C'est vrai que le potage au nid d'hirondelle, c'est un petit peu classique. D'un autre côté... Les nids d'hirondelles, ça a toujours été ce qui a fasciné le plus les voyageurs. Quoi. Donc ça, pourquoi pas. Ce que je trouve très subtil, c'est après une petite citation à la Lao Tse, de faire apparaître un personnage, Lord Kensington ou Kennington, je ne sais plus très bien, mais un personnage anglais qui arrive là, ça c'est bien.
Ouais.
Ça c'est bien parce que y a deux chinoiseries et paf, l'anglais qui arrive, vite fait. Et la fin, personnellement, le renouveau ou le...
C'est l'annonce renouvelée de la vie.
C'est pas du tout pour moi l'image du bonheur.
Ah non.
Ah bon. Oh bah écoute.
Non mais chacun la sienne. Hein.
C'est la mort qui arrive. Oui,
il s'agit pas de vous identifier vous, je vous non, signale. Mais, hein, parce non, que mais
pas, j'ai dit pour moi, parce que je veux dire pour moi en tant qu'individu, je ne parle pas
oui,
pour
non,
moi.
Non, mais...
En tant qu'homme qui pense. On a dit tout à l'heure que c'était l'image du bonheur. Alors si c'est, pardon, le...
L'annonce renouvelée de la vie. Je l'ai noté, parce que j'ai trouvé ça très beau.
On ne vit pas d'annonce, c'est pizza.
C'est Paul Claudel, c'est magnifique, là, quand même. Non, non, non.
Non, c'est
bon,
non.
Vous voulez une troisième lecture?
Ah oui, si elle est aussi voilà. bonne que les deux précédentes. Oui.
C'est
oui.
Patrice Delbourg qui lit.
Voilà un velouté de cèpe qui fait du bien par où il passe.
Ah, ça n'aura
bon, ben, ça suffit. Ça suffit. Patrice Delbourg.
Ce voyage bon, a été fort éreintant, n'est-ce pas, Baltimore?
Oui, bien sûr.
Je suis absolument moulu, Arthur. Mais tant d'images accumulées m'aura gaillardi. Repassez-moi le ramequin de courgettes.
Ah, le ramequin.
Ah, vous avez le velouté de cerf.
Le ramequin, on est à la cantine.
Des courgettes.
De Radio France, et Patrice Delbourg commande son ramequin. Oui.
Voulez-vous
le ramequin des larmes. Vous avez lu ça, peut-être, non?
Voulez-vous encore une arme de ce Condrieux de derrière les fagots, monsieur l'empereur?
Du Condrieux.
Il se que laisse volontiers amadouer.
Oui?
Non.
La fin?
Bon, si c'est Jules Verne, je vous offre une caisse de Condrieux. Hein.
Est-ce maintenant ce point fragile de l'existence où tout le passé n'a plus cours, où l'avenir n'a pas encore trouvé l'encre pour s'écrire, le nectar de l'instant présent, l'hydromel du moment vécu? Je vous le demande, messieurs.
Bon, alors, c'est un texte en tout cas qui fait rire, sourire, ce qui est très agréable dans la
ah
vie.
Ah oui, oui.
Hein.
Qui est...
ouais. Alors, Patrice Comont, je me tourne vers vous. Vous avez dit, dès la première phrase, il n'y a pas de doute, c'est...
C'est Delbourg. Mais ses problèmes, c'est que c'est sa façon qu'il a,
oui, gourmand,
car c'est d'abord avant tout un acteur.
Oui.
Hein. Donc, la façon de s'approprier les textes qui fait que le velouté de cèpe, ça ne pouvait être que lui qui l'avait confectionné, que le Condrieux, on se dit, mais il n'y a que lui qui connaît ce vin délicieux, ce blanc magnifique. Et puis après, on doute, parce que peut-être qu'il le surjoue exprès pour faire croire que c'est lui. Alors c'est vrai que il n'a pas été dit que les Chinois mangeaient chinois, mais... enfin, qu'ils n'ont pas dit qu'ils étaient au restaurant chinois. Les trois convives. Mais là, quand même, le ranequin, les courgettes. Bon.
Et l'hydromel à la fin.
Il y a un peu de, quelques doutes. Et puis à la fin, c'est très joli. La fin est jolie, très emportée. Non, s'il y a Condrieux, vraiment, Jacques Jouet est vraiment un pervers. Définitif ah. de nous offrir un texte comme ça où il y a Condrieux à Pékin.
Bah, en même temps, non, s'il choisit un piège pour espérer faire...
À La Rochelle, oui, mais à Pékin, non.
Évidemment.
Bon, alors, une petite option Delbourg pour vous deux.
Oui.
Oui.
Bah, on est porté oui. par la voix. C'est
on est porté par la voix. Mais le Condrieux, bon, c'est Delbourg ou Jean-Bernard aussi, qui connaît bien le Condrieux.
Je
vois moins Odile.
On a plus affaire à des critiques gastronomiques qu'à des critiques oui, littéraires.
Enfin, je vous signale que c'est un repas quand même. Hein.
Allez, je me lance. Votre cuisinier est décidément le meilleur de canton, affirma le juge Fagot en reposant sa cuillère. Ses nids d'hirondelles vous emportent vers des hauteurs célestes.
Un autre.
Ils sont le plat préféré de ma douce Shaolai, précisa Cheng. S'il ne tenait qu'à moi, une soupe de nouilles me suffirait bien. Allons,
et
pardon, et non pas quoi.
Il y a très beau contre-pied.
Une soupe de nouilles, je ne vois pas. Non.
Cheng.
Allons, monsieur Cheng, vous êtes jeune, riche, aimé. Pourquoi ce ton maussade?
Oh, c'est bien, c'est formidable, c'est magnifique.
C'est magnifique.
Ah, c'est très joli, touillé. Oui. Non, c'est magnifique, c'est pour moi, non, c'est très très bien ça. C'est très bien écrit, c'est très bien fait, c'est vivant, c'est crédible.
Il y a du nid d'hirondelle aussi. Hein.
Oui, mais ça, oui, mais... bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que le nid d'hirondelle, beaucoup plus que l'aileron de requin ou que le nénuphar sucré, qui sent son
ou
Boris.
La courgette.
Le Boris Vian, le nénuphar sucré, c'est Pouy, la courgette, c'est lui. Mais là, le nid d'hirondelle, le premier, c'est donc Odile. Et puis là, le nid d'hirondelle, celui-là, il sonne vrai. Il sonne plus vrai quand même.
D'accord, je vais vous lire la fin quand oui. même. Oui. Hein. Cheng contemplait le bassin couvert de nénuphars en fleurs, à peine dérangé par un couple de cygnes. Quelle paix, quelle harmonie. Son regard glissa sur Shaolai, drapé dans une robe de soie verte, au reflet mordoré. Elle le regardait avec tendresse. Qu'il était bon de vivre. Qu'il était bon de savoir que cette félicité allait durer longtemps.
Alors voilà l'image du bonheur.
Ah, ben pour vous, c'est ça.
En plus, celui qui... Non, mais attendez. Que celui qui a donné le texte et qui a dit que la fin du texte était l'image du bonheur, c'est pas mon image du bonheur que je dois chercher. C'est celle de Jacques Jouy. Et celle de Jacques Jouy, s'il n'y a pas une jeune femme en robe verte légèrement encourbée qui se pose en lui offrant les grands délices de la terre et les promesses de l'aube, je vois pas
comment il pourrait être.
Comment il pourrait être autrement. Donc, effectivement, ça correspond à l'image du bonheur que se fait Jacques Jouy.
D'accord, d'accord. Ça, c'est argumenté.
C'est très bien, sauf que la fin fait plutôt penser à l'image du printemps japonais. Là. Croyez-vous au printemps japonais? On se croyait dans un film d'Ozu, un peu. Ah. Plus qu'en Chine.
Oui.
Et puis, ce personnage de Chang, alors, on ne parle pas de moustiquaire, on ne parle pas de Tintin non plus, mais pourquoi il s'appelle Chang, enfin? Ou alors, ça ferait le troisième héros de la littérature prénommé Chang.
C'est Chang, hein,
Chang, avec un E.
Chang, avec un E.
Oui, enfin, la prononciation n'est pas bien différente.
Non, c'est pas comme l'ancien tennisman Michael Chang. C'est pas la même chose.
Chang,
Chang. Beaucoup de noms. Shaolai, Chang.
Quoi, il y a Shaolai?
Oui, aussi, il y a aussi. Oui, il y a
les moines.
Il y a les moines Shaolai, oui.
Ça, le plat préféré de ma douce Shaolai.
Ah oui, mais là,
il y a un problème.
Là, vous avez trouvé.
Ah, vous l'avez pas entendu tout à l'heure.
Vous avez débusqué
Shaolai,
le Shaolai.
Mais non, à la première audition.
Ça complique, oui, c'est embêtant. Ça.
Parce que sinon, le texte, il est très limpide.
Et puis, il correspond à peu près à toutes les.
Au cahier des charges.
Ah oui, quelqu'un qui est très scrupuleux dans le respect du cahier des charges.
Oui, c'est un indice.
Rien manqué, oui.
Alors, c'est Odile Conseil. C'est, elle est scrupuleuse.
Oui, une option Odile, alors.
Non, mais c'est très joli. Attends, je l'ai dit depuis le début. Et très, très... C'est parfait, ça.
Bon, on refait un tour de lecture, Jean-Bernard Pouy. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas trop mouillé. On n'a pas vu où était le Jules Verne.
Non, nous non
plus. On n'a pas vu où était Jean-Bernard Pouy. On a vu vaguement où était Patrice Delbourg et Odile Conseil pour vous, à ce stade du jeu. Hein. Jean-Bernard Pouy.
Le début. Il faut pourtant convenir que la vie a du bon, s'écria l'un des convives, accoudé sur le bras de son siège à dossier de marbre, en grignotant une racine de nénuphar au sucre. Et du mauvais aussi, répondit entre deux quintes de tout, un autre que le piquant d'un délicat aileron de requin avait failli étrangler. Soyons philosophes, dit alors un personnage plus âgé, dont le nez supportait une énorme paire de lunettes à large verre montées sur tiges de bois. Et la fin ?
La fin.
Les deux époux s'aimaient. Point d'exclamation. Ils devaient s'aimer toujours. Point d'exclamation. Mille et 10 000 félicités les attendaient dans la vie.
Point d'exclamation.
Il faut aller en Chine pour voir cela.
Point d'exclamation. Point d'exclamation. Alors, vous avez tous les deux donné 18 sur 20 pour l'escroquerie.
Oui.
C'était
oui,
le point de
vue
de Patrice Caumont. Luc Cafournier ne savait pas si c'était une escroquerie ou si c'était du Verne.
Non, je trouvais que c'était fort, mais en le relisant, je le trouve un tout petit peu moins fort.
Ah bon ?
Oui. Parce qu'il y a un effet systématique au début de poser les personnages de façon tellement obsédante. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a brillamment pastiché et je pense que Jean-Bernard est capable de ça.
Et il aurait lu son propre texte.
Oui,
le hasard lui aurait offert.
Oui, le nénuphar sucré était magnifique, mais après il avait moins d'imagination pour la suite, donc il s'est rabattu tout de suite sur un aileron de requin en deuxième semaine, et puis en troisième semaine, le troisième convive évoque, je ne sais plus ce que vous avez dit, il a des lunettes, lui. Voilà, il a des lunettes.
Oui.
Donc il est parti très fort, mais là en 10 minutes il ne pouvait pas faire mieux. Donc il est parti très très fort sur le nénuphar sucré.
Oui.
Après, on a baissé avec les longs requins et on finit moins bien sur les lunettes.
Bon, c'est du Jean-Bernard Pouy.
Oui, mais c'est du Jean-Bernard.
Ben,
et la fin est réussie. Hein.
Oui.
C'est très réussi, c'est d'autant plus réussi que, à mon avis, c'est du Jules Verne.
Ah bon.
Oui.
Et justement, parce que je crois que le nénuphar dans le bassin, le dernier texte qui a été lu, c'est tout à fait logique, mais le nénuphar sucré, quand même... Je pense que c'est peut-être ça qui a attiré l'œil de Jacques Jouy, parce que le nénuphar sucré, quand même...
Faut y penser, c'est pas évident.
Enfin, il y a des beignets de courgettes, il y a des beignets de nénuphar, on peut faire des beignets avec n'importe quel fleur sucré. Mais c'est surtout là où je pense que Jules Verne, seul, était avant tout un homme qui aimait la description de l'objet technique, du tournevis, de la vis. Je suis étonné qu'à propos des lunettes, qui sont
exactement les lunettes que l'on fabriquait en Chine à l'époque de Jules Verne, car toutes les montures étaient soit en bois, soit en bambou, et le cercle métal était énorme. Donc Jules Verne aurait pu préciser qu'elles avaient deux vis d'acier latéral, car, et même le portrait, si vous avez des photos de Chiang Kai-shek enfant, ou des dessins de certains empereurs de Chine de l'époque, ils ont tous ces grosses lunettes à monture de bois, et je ne vois point. Par rapport au brief, l'un des trois faussaires faire long sur une monture de lunettes, alors qu'il n'en a pas été question.
D'accord.
Donc, je dis Jules Verne, à cause de cette magnifique description d'une paire de lunettes chinoises, de l'intelligence du nénuphar à fleurs, et d'une joie de vivre à la fin, qui est un peu la joie aussi de, selon Jacques Jouet, c'est-à-dire un peu un kangourou. Je saute d'un point d'exclamation à un autre, et je saute. En fait, je saute.
On fait aussi l'expertise de Jacques Jouet à ce jeu aujourd'hui.
C'est un peu qui se trahit.
On apprend beaucoup de choses sur chacun.
Allez, on écoute la deuxième lecture, parodie le conseil.
Ce potage au nid d'hirondelle est définitivement excellent, déclara Wang, matois et mystérieux. Je n'en dirai pas autant de votre projet, cher ami. Pourtant, maître, il découle de votre enseignement. La fin ne peut être que la compréhension des débuts. Je comprends ce qu'éprouve notre cher et jeune ami. Un dessert se doit de n'être que le résumé définitif d'un repas inattendu, rajouta Lord Carrington. La fin ? Le soleil au coucher, que d'or, quelle paix ! Ce n'est pas la fin du jour, ce n'est pas la nuit qui tombe, c'est la promesse d'une aube fraîche et bleue, c'est l'annonce renouvelée de la vie.
Oui, Lucas Fournier,
embêté. En le réentendant, on voit le piège, parce que j'avais envie de dire Jules Verne, mais alors déjà, il y a ce Lord Carrington, donc on est au cinéma, on a la fin du jour dans la deuxième partie, on a la promesse de l'aube, donc on a tout le cinéma français qui défile dans ce texte. Et à la première lecture, on ne l'avait pas entendu, ça sonnait comme du Jules Verne, alors là...
Là, vous êtes
toutes
embêté.
Mes hypothèses s'effondrent, mais comme je n'avais pas choisi Jules Verne encore, je voulais compter l'attribuer à ce texte, et là, je ne pense pas que Jules Verne ait vu la fin du jour.
C'est pas probable, oui.
Ni lu la promesse de l'aube, donc là, je suis un peu plus désarmé.
Vous voudriez...
Donc à ce moment-là, Odile, qui est très cinéphile, est peut-être capable finalement de nous avoir fait ça.
Ah, c'est vrai qu'elle s'occupe même d'un festival.
Justement, et... Au Havre, qui n'est pas si loin
de Pékin.
De Pékin, c'est vrai.
Et de Jules Verne, puisqu'entre Nantes et Amiens, finalement, c'est le Havre. Donc,
oui. Voilà. Allez, on prend une option. Oui. Non, c'est même plus une option, bah non, c'est un verdict.
Ah oui,
c'est Odile Conseil. Oui. Et pour vous, Patrice Comeau ?
Effectivement, ça pourrait être Odile. Ça pourrait être Jules Verne aussi, hein, mais moi, c'est fini.
Donc, c'est fini, Jules Verne. Vous l'avez attribué tous les deux.
Je suis obligé, par déduction, et je joue gros, mais... par le cinéphilie, par le... C'est un des gens... Patrice Delbourg qui aurait travaillé.
C'est terriblement méchant.
Non.
C'est un grand jour.
Non, parce que je me refuse à croire que les Cèpes et le Condrieux, c'est trop satirique quand même. Donc je refuse de l'attribuer, les Cèpes à Delbourg.
On verra après, oui, mais déjà, ce texte-là, avec Lord Carrington...
C'est Lord Carrington, c'est très bien, les métaphores sur le cinéma, c'est très bien, et puis c'est bien de faire venir un troisième personnage, ce que je l'ai dit depuis le début, deux Chinois, tac, un Anglais qui arrive, et puis la fin, il fallait un certain nombre de points d'exclamation, il a compté sur ses doigts, il y en a.
Très bien. Bah, vous n'êtes pas d'accord du tout, hein, mais c'est
non,
pas
bah
grave.
Oui, non, c'est...
Alors, ce texte magnifique où il est question de velouté de cèpe, Patrice Delbourg, vous voulez bien nous le relire ?
Volontiers.
Ça, je ne vais pas y croire.
Voilà un velouté de cèpe qui fait du bien par où il passe. Ce voyage a été fort éreintant, n'est-ce pas, Baltimore ? Je suis absolument moulu, Arthur. Mais tant d'images accumulées... Mon néanmoins ragaillardi, repassez-moi le ramequin de courgettes. Voulez-vous encore une larme de ce Condrieu de derrière les fagots, monsieur l'empereur ? Il se laisse volontiers amadouer. La fin. Est-ce maintenant ce point fragile de l'existence où tout le passé n'a plus cours, où l'avenir n'a pas encore trouvé l'encre pour s'écrire, le nectar de l'instant présent, l'hydromel du moment vécu ? Je vous le demande, messieurs.
Voilà, alors Patrice Comment, vous aviez dit ça, c'est du Delbourg, mais oui. Maintenant vous êtes coincé parce que vous venez d'attribuer la lecture de Dil Conseil à Delbourg.
Non, je ne...
Donc Delbourg, il a lu quoi là?
Depuis le début, c'est trop Delbourg, donc je pense que Jean Bernard, qui est matois, chafouin, rusé, tout ce que vous voulez, s'est amusé et s'est lâché... Alors, en balançant les cèpes en entrée et le Condrieu que quand même parce que
lui il connaît le Condrieu, Jean Bernard,
non seulement il adore le Condrieu, mais il le met en grande estime et il a bien raison avec le Saint Joseph, c'est quand même nos saints patrons. Donc voilà, je pense que c'est une ruse.
D'accord.
Parce que évidemment, ça fait penser au style de Delbourg, mais je ne peux pas croire que Patrice se soit lâché comme ça parce qu'il avait envie d'aller faire autre chose. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le temps qu'il a passé pour écrire ça. Mais,
Vous êtes restés tous une petite demi-heure à la table.
Non, quand même.
Bon, alors, du Jean-Bernard Puy pour Patrice Comment.
À la Delbourg.
Et Lucas Fournier. Alors,
tout à l'heure, on a évoqué le cinéma et le film de Philippe de Broca, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, dont le héros s'appelle l'Empereur, justement, dans le film. Je ne me souviens pas si c'est aussi le nom du héros du livre de Jules Verne, mais le nom, l'empereur, est cité là. Donc c'est quelqu'un qui, à défaut d'avoir lu le livre, a vu ce film.
Ouais. Mais alors, vous aviez une hypothèse Patrice Delbourg.
Oui, mais j'ai toujours l'hypothèse Patrice Delbourg, et elle est confirmée par cette irruption de l'empereur dans l'histoire.
Voilà, parce que c'est un homme cultivé.
Oui, il va au cinéma, oui.
Il va au cinéma,
oui, passage Brady et ailleurs, d'ailleurs.
Bon, alors, la quatrième lecture, je vous la donne, je vous l'offre. « Votre cuisinier, décidément le meilleur de canton », affirma le juge Fagot en reposant sa cuillère. « Ces nids d'hirondelles vous emportent vers des hauteurs célestes. » Ils sont le plat préféré de ma douce Shaolai, précisa Cheng. S'il ne tenait qu'à moi, une soupe de nouilles me suffirait bien. Allons, monsieur Cheng, vous êtes jeune, riche, aimé. Pourquoi ce ton maussade ? La faim ? Cheng contemplait le bassin couvert de nénuphars en fleurs, à peine dérangé par un couple de cygnes. Quelle paix ! Quelle harmonie ! Son regard glissa sur Shaolai, drapée dans une robe de soie verte aux reflets mordorés. Elle le regardait avec tendresse. Qu'il était bon de vivre, qu'il était bon de savoir que cette félicité allait durer longtemps.
Bon, alors ce jeu est un sudoku, parce que quand vous faites un sudoku, vous avez presque fini et il y a deux
chiffres
en trop.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
Et donc là, nous sommes dans cette situation, puisque en ce qui me concerne, il me reste Jules Verne.
Oui.
Et j'ai un petit peu de mal à caser Jules Verne dans ce texte malgré tout, surtout avec le Mordoré final qui est quand même...
Un peu trop ?
Un peu trop, oui, un petit peu trop. On aurait pu s'abstenir. Alors que le début était plutôt goulayant et fluide.
Ouais.
Donc je mets Jules Verne
et vous êtes
sur
obligé,
cette case de sudoku japonais, ouais. D'ailleurs, qui n'est pas chinois.
Ouais. Mais avec regret.
Mais oui, mais on joue toujours avec regret.
Mais
donc
si vous voulez s'y aller, si non, vous oubliez tout ce qui vient de se passer, vous l'attribueriez à qui ?
Plutôt à Odile.
D'accord.
Mais
Non, mais c'est pour voir si on peut vous donner un regret à la fin.
Non.
Donc c'est du Jules Verne. Patrice Comment, vous aviez dit Odile,
oui,
point d'interrogation.
Oui, bien sûr Odile. Ça peut être aussi, c'est très très proche de Jules Verne. Donc je ne dis pas que c'est Jules Verne, puisque d'abord je n'ai pas le droit, mais je dis que c'est quand même quelqu'un...
Tu veux qu'on échange ?
Si c'est pas de Jules Verne... Non, mais c'est très joli. Et le vers mordoré, bon, elle aurait pu dire vers scarabée parce qu'on est en Chine, mais vers moi, ça me gêne pas du tout. Et je trouve que ce texte est non seulement très bien écrit, très joli, mais c'est du Jules Verne. Je l'attribue pas à Jules Verne, mais je dis c'est du Jules Verne. Donc,
vous voulez dire c'est un très joli pastiche.
Ce
serait le meilleur pastiche.
Et c'est très bien fait. Et bon. C'est un beau travail et c'est magnifique. Et
mais,
c'est un beau texte.
Mais c'est
Odile. Et Odile est la seule qui est capable de mettre son temps et son talent au service de ce pastiche.
Bon, parce que Jean-Bernard Pouy et Patrice Delbourg...
Non, parce que ce sont quand même deux feignasses.
Oh.
Et là, il y a un travail exceptionnel, c'est pour ça. Oui. Ou c'est Jules Verne, ou c'est Denis.
Bon,
c'est magnifique ce texte, c'est très beau.
C'est magnifique, on retiendra ça. On fait un petit récapitulatif. Hein, c'est pas si facile, mais au début, dans le texte que Jean-Bernard Pouy a lu, il y a du nénuphar au sucre. Et puis les époux s'aimaient à la fin, ça c'est l'image du bonheur. Donc pour Patrice Caumont, ce serait du Jules Verne, pour Lucas Fournier, du Jean-Bernard Pouy. Deuxième texte, il est élu par Odile Conseil, il y avait un potage au nid d'hirondelle. Et puis cette fin, je lis, c'est l'annonce renouvelée de la vie. Et un Lord Carrington qui passait par là. Alors, pour Patrice Caumont, c'est du Patrice Delbourg qui aurait bien travaillé. Et pour une fois, a-t-il même dit, mais ça, je trouve qu'il est très sévère avec vous. Et pour Lucas Fournier, ce serait de l'Odile Conseil. Ensuite, troisième texte avec le velouté de cèpe, le ramequin de courgette, Baltimore, le Condrieu. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses très, très jolies. Patrice Caumont, vous avez estimé que c'était du Jean-Bernard Pouy qui s'amusait à imiter Patrice Delbourg. Voilà, parce qu'ils se connaissent très bien tous les deux. Lucas Fournier n'a pas hésité à dire que c'était du Patrice Delbourg, tout simplement. Talentueux, mais qui n'essaierait pas de jouer au jeu, c'est-à-dire qui n'essaierait pas de faire du Jules Verne, c'est un peu ça l'idée.
Il a envie qu'on le reconnaisse, c'est ça.
Il a
très fort besoin de reconnaissance.
Et dernier texte que j'ai lu,
c'est le cas
alors,
de tous les poètes maudits. Hein.
Oui, il y a des personnages, il y a Shaolai, il y a Cheng, il y a l'image du bonheur, quoi. Vraiment, vraiment, c'est magnifique, avez-vous dit, Patrice Caumont, et vous l'attribuez à Odile Conseil. Lucas Fournier un peu embêté parce qu'il ne lui reste que Jules Verne, l'attribue à Jules Verne, sans trop y croire. Ah, qui a le vrai texte de Jules Verne en main ?
C'est moi.
C'est Jean-Bernard.
Le nénuphar en sucre, au sucre, pardon, c'est Jules Verne. Voilà, les ailerons de requin également.
Lisez-nous le début.
Il faut pourtant convenir que la vie a du bon, s'écria l'un des convives, accoudé sur le bras de son siège à dossier de marbre, en grignotant une racine de nénuphar au sucre.
Très joli texte, de Jules Verne donc. Eh bien bravo Patrice Caumont, vous marquez un point. Mais c'est formidable.
Oui, c'est exceptionnel. Le
gros point. Et c'est uniquement à cause de...
Des lunettes, oui, lisez-nous la fin, parce qu'il a argumenté...
Soyons philosophes, dit alors un personnage plus âgé, dont le nez supportait une énorme paire de lunettes à large verre, montée sur tige de bois.
Voilà, la lunette en Chine, faudra faire un...
Mais ça, c'était un bel
un
argument.
Oui. Un bel argument.
La lunette de Chiang Kai-shek. Ouais.
Les autres arguments n'étaient pas aussi passionnants du point de vue de la critique, mais celui-là, oui, alors...
Ah oui, mais il a tout donné sur la lunette. Patrice Caumont, bravo Patrice. Alors Lucas, vous l'avez attribué à Jean-Bernard Pouy.
Roussel aimait énormément Jules Verne. Hein. Donc les exemples que tu as donnés, ça aurait pu être de Roussel, finalement.
On est très proche.
En allant plus loin dans la lunette.
Très, très proche.
Donc pour vous, Lucas Fournier, c'est un premier zéro, parce que ce n'est pas du Jean-Bernard Pouy. Odile Conseil, vous avez lu un texte de qui est-il ?
J'ai lu Jean-Bernard Pouy.
Le potage au nid d'hirondelle, l'annonce renouvelée de la vie, Lord Carrington. Jean-Bernard, lisez votre propre texte.
Le potage au nid d'hirondelle est divinement excellent, déclara Wang, matois et mystérieux. Je n'en dirai pas autant de votre projet, cher ami. Pourtant, maître, il découle de votre enseignement. La fin ne peut être que la compréhension des débuts. Je comprends ce qu'éprouve notre cher et jeune ami. Un dessert se doit de n'être que le résumé définitif d'un repas inattendu, rajouta Lord Carrington.
Voilà. Bah, c'est du Pouy. Alors là, 2-0, parce que Patrice Caumont l'a attribué à Patrice Delbourg, qui aurait travaillé. Bah oui, mais Pouy aussi travaille. Et vous, Lucas, Odile Conseil. Voilà. Bon, ça fait 2-0 pour Lucas, un premier zéro pour Patrice Caumont. Alors, Patrice Delbourg, je vais vous demander de relire vous-même. Le velouté de cèpe, parce qu'il vous va si bien.
Je sais pas par où commencer, tout est succulent.
Oh bah, le velouté, la courgette, enfin tout, quoi.
Et je vois que Jean-Bernard a pris aussi un accent britannique qui est de mise. Ouais. Voulez-vous un velouté de cèpe qui fait du bien par où il passe, mon cher Baltimore? Et puis ensuite l'empereur. Alors l'empereur est dans le film de Broca, mais aussi dans le roman de Jules Verne, il s'appelle l'Empereur, le personnage.
Oh ben, très bien, voilà, il a lu le livre.
Et Arthur, qui est son valet, c'est Jean Rochefort dans le film de Broca.
Et le passage sur la courgette, qui était si joli.
Oh,
je ne
crois pas, non.
Du tout. Repassez-moi.
Il y a goupille main rouge.
Ne le croyez pas.
Voulez-vous encore une larme de Condrieu de derrière les fagots, monsieur l'empereur ? Il se laisse volontiers amadouer. Et la fin, qui est proche du maréchal de Lattes de Tassigny, évidemment. Est-ce maintenant ce point fragile de l'existence où tout le passé n'a plus cours, où l'avenir n'a pas encore trouvé l'encre pour s'écrire, le nectar de l'instant présent, l'hydromel du moment vécu ? Je vous le demande, messieurs.
Voilà, comment avez-vous pu changer d'avis une seconde, Patrice Comont ?
Par respect, on ne le saura jamais. Par respect pour ce qu'était Delbourg jadis.
Ne vous enfoncez pas.
Non, non, je ne m'enfonce pas parce que c'était évident que c'était Delbourg. Mais je voulais sauver Delbourg. Mais... je n'aime pas les grandes victoires devant... mon expert.
Voilà, Lucas, il a affirmé Delbourg, il n'a pas lâché Delbourg.
Je préfère une demi-victoire et j'ai trouvé les plus difficiles.
C'est fou, hein.
Il est très désagréable avec tout le monde, avec les faussaires. Mais
les
aussi,
experts
avec
devenant
expert.
Kakoshim, ça devient quelque chose.
Bon, et le dernier texte, eh bien, il était d'Odile Conseil. Comme vous l'avez si bien dit, Patrice Comont, vous l'avez attribué contraint, forcé, la mort dans l'âme, Lucas Fournier à Jules Verne. Non, parce qu'il ne vous restait que ça. Mais oui, vous m'avez dit que si vous aviez chance, vous l'attribueriez à Odile Conseil.
Si on avait eu 4 chances sur chaque. Choix, on aurait pu gagner aussi.
Donc vous auriez pu marquer un deuxième point, oui, mais vous ne le marquez pas.
C'est le principe du jeu.
Patrice Comont marque un deuxième point et on va demander à Odile Conseil de relire elle-même son si joli texte.
Votre cuisinier est décidément le meilleur de canton, affirma le juge Fagouot en reposant sa cuillère. Ses nids d'hirondelles vous emportent vers des hauteurs célestes. Ils sont le plat préféré de ma douce Shaolai, précisa Cheng. S'il ne tenait qu'à moi, une soupe de nouilles me suffirait bien. « Allons, monsieur Cheng, vous êtes jeune, riche, aimé. Pourquoi ce ton maussade ?» Cheng contemplait le bassin couvert de nénuphars en fleurs, à peine dérangé par un couple de cygnes. Quelle paix, quelle harmonie. Son regard glissa sur Shaolai. Drapée dans une robe de soie verte aux reflets, mordorés ou scarabées, elle le regardait avec tendresse. Qu'il était bon de vivre, qu'il était bon de savoir que cette félicité allait durer longtemps.
Il y a le nénuphar comme dans Jules Verne. Hein.
Oui, quand même. Et il n'est pas exploité même, hein, de la même façon.
Hein. Oui, Jules Verne, c'est au sucre. Hein. Oui. C'est bien mieux.
Alors, Patrice
avec
Comont...
un peu de Condrieu par-dessus, c'est un délice.
Patrice Comont est très bon sur Jules Verne et sur Odile Conseil. 2 points. Quant à Lucas Fournier, il est excellent sur Patrice Delbourg, mais il faut dire qu'il avance même pas masqué. Non, mais attendez. On le reconnaîtrait à 3 kilomètres.
Il est en train de terminer ma biographie.
Avec son ramequin de courgettes. Qu'est-ce que vous avez pensé des pastiches, Jacques Jouet ?
Jules Verne, c'est très difficile à pasticher.
Oui, il a déjà voulu.
Mais oui, parce qu'il se pastiche lui-même. Je crois que c'est un des auteurs qui le plus évidemment se pastiche lui-même.
C'est-à-dire c'est du plus Jules Verne que Jules Verne.
C'est ahurissant. Et c'est même le plaisir de la lecture vient de là. Donc, évidemment, le travail des faussaires n'est pas si évident que ça.
Ils s'en sont bien tirés, quand même.
Pas trop mal, pas toujours.
Et qu'est-ce que vous avez pensé des experts, alors
ça, n'en parlons pas.
Relisons Jules Verne. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant 1 an, à réécouter sur la page des papous pendant 1000 jours, page sur laquelle vous pouvez en principe poster vos remarques, rubrique commentaires. Vos réactions sont aussi les bienvenues sur notre page Facebook, rejoignez-nous. On se retrouve dimanche à 12h50 pour d'autres papous dans la tête. Au revoir, passez un bel après-midi bien au chaud et en bonne compagnie sur France Culture. Tiens.